Léo Ferré, dans la manière habituelle qu'on lui connaît, il en est une autre. On connaît sans doute, peut-être un peu moins, mais certains connaissent son goût et sa passion et sa grande connaissance, surtout de la musique classique. Léo Ferré parfois conduit des orchestres symphoniques. Il lit la musique, il l'écrit, il l'harmonise, il l'orchestre. Ce n'est pas un musicien amateur au sens amateur du dimanche, mais un musicien qui aime. Il était donc tout à fait normal qu'il passa à l'écriture d'un opéra. Cela s'appelle l'Opéra du Pauvre, qu'il a écrit il y a longtemps, mais l'Opéra du Pauvre est maintenant une réalité scénique. Il a été présenté à Tarbes avant-hier, et à cette occasion, on a en duplex avec la station de Radio France à Tarbes, de Pau, pardon, on a donc un duplex avec Léo Ferré, que j'ai enregistré il y a quelques instants, à l'occasion de cet Opéra du Pauvre, qui a été mis en scène par Franck Ramon. Un Opéra du Pauvre, au moment où on parle toujours d'opéra populaire, est-ce qu'un tel Opéra du Pauvre aurait pu être représenté à la Bastille, Léo Ferré?
Moi, j'aurais été bien content qu'on me demande de mettre ça à la Bastille. Mais soyez tranquille, qu'on ne me demandera jamais, vous comprenez?
Pourquoi c'est un opéra? Bah,
écoutez, regardez un peu ce qui se passe dans ce métier-là. Dans ce métier. Hein? Gens qui parlent avec l'accent. Ça m'énerve, ça. Ça m'énerve. Hein? Comment il s'appelle, ce type-là? Barenboim, quoi. Barenboim.
Oui.
Et qui... Il discutait de sommes énormes d'argent. Ben, ça, c'est leur problème. Ça m'énerve, ça. Et alors après, ils ont nommé un Coréen, quoi, un Chinois, à la Bastille, quoi. Il n'y a pas quelqu'un de français qui pourrait faire que ça.
Oui, mais Léo Ferré, ce n'est pas vous dont on connaît les idées qui allaient défendre un nationalisme culturel.
C'est mais la Bastille faisait de toute cette fête, quand même. On m'avait demandé, un journaliste m'avait téléphoné en me disant « Qu'est-ce que vous pensez de... Qu'est-ce que vous feriez à la Bastille ?» Je dis, moi, la Bastille, je la viderai. Je mettrai une énorme photo représentant la Bastille, l'ancienne, la vraie. Et puis, je mettrai un enfant de 10 ans devant, chantant la Marseillaise, sans accent. Et voilà. Moi, ça te plaît, ça vous plaît ou ça vous plaît pas, mais je vous dis ce qui s'est passé, quoi. Hein, ce serait formidable, ça. Il y a des enfants de 10 ans qui ont de très jolies voix, n'est-ce pas?
Oui, voilà. Oui. Mais vous savez très bien que le concept de départ de l'Opéra Bastille, c'est de faire un opéra populaire. Je suppose que ça rejoint un peu vos préoccupations.
Est-ce ce ne sera pas populaire, soyez tranquille. Hein. Ça va être cher, les gens ne pourront pas... Mais non,
c'est moins cher. C'est moins cher que n'importe quel autre opéra du monde.
Ce sera les Visons qui iront encore là-bas. Les Visons, oui. On dirait que je suis un peu excité, toujours. Mais je suis toujours un peu excité.
Mais
parce que ça,
soyez vous-même.
C'est comme ça.
Mais est-ce que l'Opéra du Pauvre est un opéra populaire?
Ah, je ne peux pas vous dire ça. Peut-être. C'est un peu difficile par moment. Mais je n'ai pas écrit ça dans ses intentions. Moi, vous savez, moi, j'ai fait un disque et un jour j'ai rencontré Franck Ramon qui est venu me demander à Marseille l'autorisation de mettre ça en scène. Car j'avais dit, j'avais prévu, et j'avais dit il est inutile de me demander ou alors on verra. Et puis je lui ai dit oui, il m'a paru sympa, puis c'est un type qui a du talent. J'ai vu, il y a eu la première que j'ai vue il y a quelques mois à Castres, fantastique, très très beau. Et ça, on se rend compte que le théâtre, c'est pour moi, c'est un autre métier, quoi. Moi, je fais du théâtre, mais je suis seul en scène, bon, ça ne regarde que moi. Tandis que les comédiens, une scène, une pièce de théâtre, fantastique. Quand on voit ça de près, ça impressionne. Et je suis impressionné, je suis content d'avoir donné cette œuvre à Franck Ramon.
Et est-ce que votre ouvrage correspond aux critères habituels de l'opéra traditionnel?
Non, je pense pas du tout, non. Non. Mais l'opéra traditionnel, c'est foutu depuis... Moi, j'estime que j'ai dit un jour qu'il est foutu depuis Pélias et Mélisande. Le jour où Debussy est allé acheter le livre de Maeterlinck sur les quais, et... Il a mis ça en musique. Si Péléas et Mélisande avaient été écrits en vers, il n'y aurait pas eu cette musique.
Mais vous pensez que l'opéra s'est arrêté avec Péléas et Mélisande? Quand même, Ravel, L'Enfant et les Sortilèges, Berg, Loulou, Prokofiev, Les Trois Oranges, ça existe.
Oui, d'accord, j'aime bien, mais c'est Debussy avait fait un truc sans, je crois que sans le vouloir, quoi. Il n'a pas décidé de donner un grand coup à l'opéra traditionnel. Et il a mis ça, la prose en musique, quoi. Et la prose en musique, ça n'est pas Verdi, ça n'est pas Mozart, ça n'est pas... comprenez? Voilà. c'est une idée à moi. Des fois, je dis des conneries aussi.
Non, mais vous êtes toujours fasciné quand même par le symphonique, le lyrique, oui. Le grand orchestre. Que oui. Vous connaissez la musique classique. Vous avez dirigé en fausse, vous avez dirigé sur scène aussi.
Oui.
Donc, l'opéra, c'est votre affaire.
C'est mon affaire, enfin. C'est mon affaire, c'est l'affaire de machin. Moi, il s'appelle Berger.
Mais non.
C'est l'affaire de qui hein? Vous savez, c'est difficile de dire quoi que ce soit dans ces histoires-là. Quand j'ai eu ce berger que j'ai connu il y a longtemps, sortir d'une maison de couture pour diriger la musique, ça m'a paru intéressant, quoi. Quand je dis intéressant, je dis ça entre guillemets.
Vous pensez qu'il est plus intéressant de sortir de l'opéra pour diriger une maison de couture?
Oh, ça c'est pareil, hein. Maison de couture, ça doit être difficile, hein. Non. Les gens font leur métier, quoi. Et aujourd'hui, on change, tout change. C'est la droite, la gauche, en avant, en arrière, partout, ça. Et on fait avaler aux gens des grandes couleuvres. Voilà.
La droite, la gauche, vous pensez que ce sont des concepts qui n'ont plus de contenu, plus de réalité?
Et la droite et la gauche, vous voyez ce qui se passe. Hein. La gauche, mon vieux. Et la droite, c'est pareil, quoi. La droite, c'est n'en parlons plus, quoi. C'est terminé depuis longtemps. La gauche va un peu à droite, quoi. Ce qui est normal.
Et justement, est-ce que ce n'est pas un malheur pour la gauche qu'il n'y ait plus de droite, qu'il n'y ait plus de véritable opposition?
Je sais pas. Il y aura toujours l'opposition.
Pour la titiller, pour l'aiguillonner, pour l'empêcher de s'endormir.
Il y a toujours l'opposition du fric, quoi. C'est sûr. Hein? Toujours. Soyez tranquille. Les choses ne vont pas aussi simplement qu'on pense, et puis elles ne vont pas non plus avec autant de difficultés qu'on pense non plus. Voilà, les choses sont ce qu'elles sont, et puis voilà, quoi, qu'est-ce que vous voulez faire.
En vous entendant, on a l'impression que toutes ces luttes idéologiques qui ont nourri votre inspiration pendant longtemps sont loin maintenant, que tout cela ne vous intéresse plus, que la classe politique vous laisse dédaigneux. C'est un peu ça, non?
Moi, je n'ai toujours jamais été intéressé par la classe politique, vous savez.
Non, pardon, la lutte idéologique plutôt.
La lutte idéologique, oui. Oh. Vous savez, quand je vois les garçons, déjà, j'en vois des fois, quoi. Je m'en souviens de 68 qui avaient 20 ans, qui ont 40 ans. Aujourd'hui, ils sont différents, quoi.
Mais ils ont réussi dans l'ensemble, hein, beaucoup. Oui, ils sont patrons, chefs d'entreprise.
Ah oui,
ils ont des R25, ils ont des chauffeurs.
Ah oui, tais-toi. C'est terrible, ça. Ils ont du fric, quoi. Hein. Ils gagnent du fric.
Ou ils ont du fric, ou ils ont le pouvoir.
C'est pareil. Hein.
Alors, ça quoi, ça augmente votre désenchantement?
Non, le pouvoir, c'est plus important que le fric. Les gens qui ont le pouvoir ne pensent pas au fric. Ils pensent au fric deuxièmement, quoi. Les gens qui ont le pouvoir.
Non, justement, cette réussite de la plupart des 68 arts, du moins ceux que l'on connaissait, bien sûr, cette réussite 20 ans après dans les affaires, est-ce que ça nourrit encore plus votre désenchantement?
Oui, c'est pire que ça. Ça nourrit la guerre que j'ai contre ces gens-là, quoi. Hein? Ça nourrit les bombes que je devrais mettre de côté. Mais cela dit, je suis un anarchiste et les anarchistes n'ont pas de bombes, quoi. Ce sont des gens solitaires, quoi.
Vous n'avez que des bombes verbales?
Oui, heureusement, quoi.
Vous les avez toujours? Vous êtes toujours aussi anard, Léo Ferré?
Oui, mais vous savez, l'anarchie, c'est fantastique, non? C'est la solitude, comme je dis. Quand je leur dis ça aux gens, ils sont étonnés, ils croient que l'anarchie, c'est les bombes, c'est le truc, on va casser la gueule à celui-là. Pas du tout. L'anarchie, c'est la solitude. Deux anarchistes, ça va. Trois anarchistes, ils sont plus d'accord. Ils se font la guerre. La parole, c'est l'ennemi. Hein?
Le fait que vous viviez en Italie, définitivement, signifie-t-il qu'effectivement, vous avez pris encore plus de distance, même physique, géographique, avec cette société française qui semble vous avoir déçu?
Ah non, pas du tout, parce qu'en Italie, je retrouve les mêmes choses.
C'est bien la peine.
Oui, voilà. Non, je m'en occupe pas, vous savez, je crois que... Vous savez, je me demande même pourquoi je parle encore de tout ça, pourquoi on me pose des questions comme ça qui me...
Ah ben écoutez, c'est vous, moi j'ai été en train de vous interroger sur l'opéra du pauvre, et puis oui. on a dévié ensemble sur l'anarchie. Alors parlons de l'opéra du pauvre.
Je vous connais, c'est facile pour vous de dévier, hein, parce que vous êtes le grand déviateur commun. Hein.
Quoi?
Je vous connais bien, c'est vrai. Vous aimez parler, vous me faites parler, vous me faites dire ce que vous voulez que je dise, quoi.
Ah, pas du tout.
Non.
Vous, C'est une radio libre, France Inter. Vous pouvez dire ce que vous voulez.
D'accord, d'accord. Mais j'ai dit ce que je veux.
Oui, non, mais, écoutez, on ne peut pas dire que vous fassiez beaucoup la promotion de ce que vous faites. Encore bravo. Mais j'aimerais en savoir un peu plus quand même, et les auditeurs aussi, sur l'Opéra du Pauvre.
Mais l'Opéra du Pauvre, ça a été. J'ai écrit ça il y a longtemps.
Oui, je sais,
très
mais maintenant qu'il est sur scène.
Ah, mais ça, c'est tout à fait autre chose. Moi, je regardais ça comme le public. Hein. Ça m'a secoué, ça. Je me suis rendu compte que... Moi, j'ai enregistré ça avec l'orchestre, tout le machin, en 10 jours. Il y a 2 ans, 3 ans.
Ah, il y a un orchestre symphonique traditionnel.
Oui, oui, oui.
Pas de synthétiseur, pas d'électronique,
pas de
percussion.
Pas du tout, non. Les percussions, peut-être, en un moment, mais...
Cordes, bois et cuivre, quoi.
Il n'y a pas de choses de synthétiseur, quoi. Voilà. Et alors, Ramon est venu me voir, il m'a demandé ça, j'ai dit oui, bien sûr, et je suis allé voir le spectacle à Castres, il y a quelques mois, et je trouve ça fantastique, quoi.
Ça ressemble à l'idée que vous en faisiez ?
Alors, pas du tout, je ne pouvais pas me faire cette idée-là. Et je me suis rendu compte que, je me disais, mais qui est-ce qui a écrit ça ? Un peu, quoi. c'était une découverte, quoi. Et vraiment, ça c'est grâce au... C'est la lumière du théâtre que je ne connais pas, et puis c'est le talent de Franck Ramon et de ses comédiens qui ont beaucoup de talent aussi.
Et votre metteur en scène, faut-il le rappeler. Oui. C'est votre première et dernière œuvre lyrique ou vous avez l'intention de persévérer dans cette voie?
Je sais pas, j'en sais rien. Bon, je sais pas ce que je vais faire demain. C'est intéressant de ne pas savoir ce qu'on va faire demain. Au moins on est sûr aujourd'hui de ne pas faire de conneries, quoi. Voilà.
Des chansons peut-être.
Et des chansons, oui, j'allais être prête depuis longtemps. Il faut que j'enregistre. Je peux enregistrer 3-4 disques maintenant. Et puis, j'ai pas le temps de travailler parce qu'il faut que j'écrive les orchestrations. Et c'est du travail. Il faut que après que. Vous savez, alors, moi je suis toujours en retard. Quand je veux faire quelque chose, je dis je vais faire ça, mais il faut que je prenne le rendez-vous avec des musiciens.
Vous écrivez les orchestrations vous-même?
Ah oui. Oui, mais je fais tout moi-même.
Toutes les clés, sol, fa, ut.
Ah oui, bien sûr, deuxième et troisième, et tout ce que vous voulez, quatrième, hein. Oui, quand même. Hein.
Dites donc, dans ce qu'on appelle les variétés, entre guillemets, il y a peu de gens comme vous qui...
Ah, il y en a peu, oui. Mais ils ont tort, parce qu'ils devraient apprendre, quoi. Remarquez qu'après, je sais pas, il y en a qui n'ont besoin de rien, quoi. Ils savent tout de... C'est-à-dire qu'ils ne savent rien, quoi. Ouais. Ne parlons pas de ça.
À quand votre prochain disque de chansons nouvelles?
Il faudrait que, je sais pas, moi ça peut être dans 15 jours, ça peut être dans un mois. J'ai un enregistrement pour le 25 à Milan, et puis je verrai, quoi.
Et qui l'édite en France?
Qui le distribue.
Oui.
EPM.
Oui.
EPM.
Vous n'avez pas la nostalgie de l'époque Barclay?
Non. Non, la seule nostalgie que je peux avoir, c'est que Barclay, c'est un type avec qui souvent je n'étais pas d'accord, mais je pouvais le voir, il avait un visage, quoi. Comment vas-tu? On s'engueulait, on se serrait la main, mais c'était un type qui avait sa maison de disques à lui, vous comprenez? Maintenant, je ne connais plus rien. Il y a un patron qui a 40 ans, 38, 40 ans, à Polygram, qui est au-dessus de tout, et y compris Barclay en bas, quoi, parce qu'ils ont racheté Barclay. Je ne l'ai jamais vu. Il était chez CBS, il m'a rendu les trucs que j'avais, et puis il est venu chez Barclay, enfin, Barclay, chez Polygram. Et ce type, je ne le connais pas. Je lui ai écrit une lettre très, très aimable, parce que j'ai besoin de lui demander quelque chose. Il n'a pas répondu. Ce sont des gens qui ne répondent pas. Ils voyagent, paraît-il. Ils sont tout le temps en voiture, ils vont en Suisse, en Amérique ou en Hollande. Et voilà, comme ça. Alors vous comprenez, Jeannette, que je commence à en avoir marre de tout ça. Hein. Bon, voilà.